Le journal. Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Ils avaient 38, 39 et 50 ans, policiers du renseignement, gardiens de la paix, agents administratifs, quatre fonctionnaires assassinés à la préfecture de Paris. Hommage leur sera rendu ce matin. Alors qu'on continue à se demander si leur tueur a agi seul, lui qui possédait les coordonnées de certains de ses collègues sur une clé USB. Le revirement de Donald Trump en Syrie, n'est plus question de retirer les soldats américains du Nord et de cautionner une intervention turque contre les Kurdes. On verra ce que va faire l'armée kurde, ce que peut faire l'armée turque prête à lancer l'offensive. Faut-il des quotas d'immigrés en France? Question posée par Édouard Philippe hier. Soit répond la droite qui attend maintenant un projet de loi. France, veux-tu encore de tes paysans? Les agriculteurs en colère contre l'agribashing vont bloquer les routes aujourd'hui. Agriculture, écologie, climat, vous en parlerez à 8h20.
Avec Loïc Blondiau, professeur de sciences politiques à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne et membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat, la Convention des 150 citoyens. Il est donc l'invité du grand entretien de la matinale 01 45 24 7000 pour toutes vos questions.
Dans ce journal aussi, cette nécropole romaine qui se dévoile à Narbonne, découverte archéologique majeure, et puis 190 millions d'euros à se partager. Si personne ne trouve les bons numéros, la cagnotte de l'Euromillion ce soir attire les foules chez les buralistes.
France Inter.
On connaît son visage et son nom. Depuis jeudi, on cherche à savoir qui était Michaël Harpon, fonctionnaire radicalisé de la direction du renseignement. Mais que sait-on de ses victimes poignardées à la préfecture de police de Paris? Aurélia, Anthony, Brice et Damien seront décorés de la Légion d'honneur à titre posthume ce matin. Des policiers morts sur leur lieu de travail, assassinés par un de leurs collègues. Sophie Parmentier nous parle d'eux. Portrait avant l'hommage qui leur sera rendu tout à l'heure dans la cour de la préfecture.
Damien est le premier policier tombé sous les coups de couteau du tueur de la préfecture de police. Le tueur était son voisin de bureau dans la même unité informatique de la direction du renseignement. Damien était major, passionné par son métier et par la moto. Il avait 50 ans, une épouse et deux filles qu'il adorait, confie l'un de ses plus proches collègues.
Damien, on s'est connu il y a 20 ans et c'était un collègue extraordinaire. Jamais un mot plus haut que l'autre. Bon vivant, très bosseur. Vraiment le genre de collègue que tout le monde apprécie et qu'on aimerait tous avoir avec soi. J'ai fait des missions extraordinaires avec lui. Je ne sais pas comment expliquer ce... C'est vraiment horrible ce qui a pu se passer, quoi.
Dans le même bureau a été tué Anthony, gardien de la paix de 39 ans, père de deux jeunes enfants. Puis à quelques mètres, Brice, 38 ans. Avant d'entrer à la préfecture de police, Brice avait fait du théâtre et des courts-métrages. Il était drôle et brillant, témoigne une de ses vieilles connaissances, Jimmy Vivante.
Brice, c'était quelqu'un d'à la fois brillant, un air malicieux, engagé pour les valeurs de la République. Et je pense que c'est pas pour rien que d'ailleurs il s'était engagé dans la police.
La police qui était depuis toujours la vocation d'Aurélia. Aurélia avait 39 ans et deux petits garçons de 5 et 8 ans.
Et une cinquième policière est toujours à l'hôpital, gravement blessée par le tueur, dont on apprend qu'il possédait sur des clés USB les identités et les coordonnées d'une dizaine de ses collègues de la direction du renseignement. Clés sur lesquelles on a aussi retrouvé des vidéos de propagande de Daesh. Comment est-il passé à travers les mailles du renseignement au sein duquel il travaillait? Question posée ce matin à Christophe Castaner, auditionné à huis clos par la délégation parlementaire au renseignement, plus tard dans l'après-midi par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Entre-temps, c'est lui qui remettra la Légion d'honneur aux quatre policiers tués. Puis Emmanuel Macron leur rendra hommage dans un discours à la préfecture de police. Chacun sa place pour cette cérémonie, Yael Gauze.
Pendant les 20 premières minutes, c'est donc Christophe Castaner qui présidera seul la cérémonie. Le ministre au chevet d'une profession meurtrie, premier flic de France parmi les siens, Emmanuel Macron a insisté pour qu'il y ait d'abord ce moment qu'il faut interpréter, nous dit l'Élysée, comme une nouvelle marque de soutien à son égard alors qu'une bonne partie de l'opposition réclame sa tête. À 11h, arrivé dans la cour du président, accompagné d'Édouard Philippe, Nicole Belloubet et Florence Parly. 15 minutes de discours, une première pour Emmanuel Macron dans ce lieu, la dernière fois pour un président, c'était François Hollande, janvier 2015, l'hommage aux policiers morts dans l'attentat de Charlie Hebdo. Depuis la préfecture de police, Emmanuel Macron appellera la nation au sursaut, avec pour référence Clémenceau, 1917. Tenir, se rétablir et vaincre l'ennemi dans une forme d'union sacrée au moment où la classe politique se fissure une nouvelle fois sur la question du terrorisme islamiste. Le président parlera de cette société à construire, une société de la vigilance, sans hystérie ni délation. Il rencontrera ensuite à huis clos les familles de victimes.
Yael Gauz, en Allemagne, s'agit-il d'un attentat ou d'un fait divers? Un homme a foncé sur plusieurs voitures arrêtées à un feu rouge dans la ville de Limbourg hier soir au volant d'un camion qu'il venait de voler. Il a blessé une dizaine de personnes avant d'être arrêté. On ne connaît pas encore ses motivations.
Il est 8h06, finalement il ne les lâchera pas.
Donald Trump renonce à laisser les Kurdes de Syrie, ses alliés, seuls face à une offensive turque. Après avoir annoncé le retrait des forces spéciales américaines du nord de la Syrie hier et devant le tollé provoqué jusque dans son propre camp, Donald Trump parle désormais d'un simple redéploiement de quelques militaires et menace la Turquie de toute action qui dépasserait les bornes. C'est donc un revirement en bonne et due forme et l'on se demande maintenant ce que Recep Tayyip Erdogan va pouvoir faire avec le correspondant de France Inter dans la région. Bonjour Aurélien Colli, vous êtes à Beyrouth.
Bonjour.
Que vont faire les Turcs, Aurélien, dont on disait l'offensive imminente dans le nord de la Syrie? Les préparatifs sont bouclés, annonçait hier soir le ministre de la Défense turc.
Oui Florence, alors que la Turquie se dise prête pour son opération et qu'elle maintienne la pression, ce n'est pas vraiment une surprise pour le président Erdogan qui réclame depuis des mois cette zone de sécurité d'une profondeur de 30 km en territoire syrien. Sa solution pour d'une part éradiquer les milices kurdes qui ont combattu Daesh certes, mais que lui assimile à des terroristes liés aux séparatistes kurdes de Turquie, et d'autre part pour régler le problème de la présence des réfugiés syriens en Turquie qui alimente les critiques de sa population. Il en réinstallerait près de 2 millions dans cette zone tampon. Alors maintenant, sur le terrain, comme l'a indiqué hier soir le président américain dans un énième rétropédalage, il n'y a pas eu de retrait généralisé, mais un simple repli d'une centaine de forces spéciales. Si on ajoute les menaces de Donald Trump de mettre à genoux l'économie turque en cas d'action d'Ankara, la donne est très différente ce matin pour la Turquie. Avec 2000 hommes dans le nord-est syrien, Washington ne protège pas militairement les Kurdes, mais assure leur protection politique. Et on imagine donc mal la Turquie se lancé dans une invasion dans ces conditions. Invasion coûteuse pour une économie turque déjà en récession. Invasion difficile face à des forces kurdes bien décidées à résister.
Aurélien Colli, en direct de Beyrouth. La Turquie a déjà mené deux offensives dans le nord de la Syrie en 2016 contre le groupe État islamique et puis l'an dernier contre les forces kurdes. En France, le débat sur l'immigration hier à l'Assemblée a été très peu suivi. C'est dans un hémicycle à moitié vide qu'Édouard Philippe a appelé à réviser les logiciels sur la question, à réfléchir à une politique de quotas par métier ou par nationalité. Chiche, répond Éric Ciotti chez Les Républicains, mais il demande des actes et pas des mots.
Dans nos propositions, il y a bien sûr les quotas. Il y a des quotas. Moi, je propose que nous passions de 400 000 entrées par an à 100 000 au maximum, toutes catégories confondues, y compris l'asile. Mais où sont les actes? Il est facile de dire pourquoi pas, les quotas sont pas tabous. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le calendrier? Où est la loi? Où est la méthode? Où est le vote devant le Parlement? Ce que nous voulions, et c'était dans nos programmes présidentiels d'ailleurs, c'était un débat annuel où nous votions sur les quotas. Là, pour l'instant, on n'a rien de tout ça, rien qui est annoncé. Ce débat, c'est une immense déception pour ceux qui attendaient des annonces courageuses à la hauteur de la situation.
Et de son côté, le Parti Socialiste dénonce une mesure inapplicable et inconstitutionnelle.
8h09, un mot d'ordre des plus simples.
Bloquer les axes routiers majeurs entre 11h et 14h et une revendication principale, la fin de l'agribashing. Les agriculteurs ne veulent plus qu'on les accuse d'empoisonner leurs concitoyens avec des pesticides. Ils seront donc sur le pont un peu partout en France à l'appel de la FNSEA, sur le périphérique de Caen entre autres, avec leurs tracteurs. Olivier Host, éleveur à Bourguébus, peut témoigner de ce qu'il ressent comme un harcèlement injuste.
Des gens s'arrêtent en vélo, en voiture et nous traitent de tous les noms, comme quoi on est des pollueurs, on tue les animaux. Le consommateur, par les messages qu'il entend via les politiques ou des articles de journaux, a l'impression d'être empoisonné, entre guillemets, en mangeant des produits agricoles, alors que les produits français sont produits selon des normes tout à fait sécurisées. Et ce que le consommateur oublie, c'est qu'il y a énormément de produits importés sans droit de douane, sans contrôle de la manière dont ces produits sont produits. Et c'est ça le gros souci.
Voilà cet agriculteur interrogé par France Bleu Normandie qui sera sur le périph de Caen tout à l'heure. Blocage attendu également sur le périphérique de Toulouse. On attend aussi des opérations escargots sur l'autoroute A81 en Mayenne ou sur l'A4 près de Strasbourg, entre autres. Alors qu'à Paris, quelques centaines de militants du mouvement Extinction Rébellion ont passé la nuit place du Châtelet et aux alentours pour dénoncer l'inaction climatique. Ils veulent rester jusqu'à demain. Leur sit-in et leurs accessoires sont à voir sur franceinter.fr. Un incendie d'ampleur ce matin dans une entreprise de Villeurbanne près de Lyon. C'est un bâtiment de 2000 mètres carrés qui est en flamme. Un important panache de fumée noire est visible de toute la métropole, nous apprend France 3 Rhône-Alpes. Les pompiers, évidemment, sont sur place. Un rapport de Seine-Saint-Denis tué par balle hier soir à Garges-lès-Gonesse dans le Val-d'Oise. Samat avait 37 ans. Il a été abattu sur le parking d'un McDonald's, condamné pour trafic d'armes et de drogue et incarcéré à Nanterre. Il était en permission de sortie. Nicolas Bazir, l'ancien directeur de campagne d'Edouard Balladur, Ziad Takeddine, l'homme d'affaires franco-libanais et 4 autres prévenus comparaissent depuis hier devant le tribunal correctionnel de Paris. C'est le volet financier de l'affaire Karachi, l'histoire de ces commissions occultes en marge de contrats d'armement avec le Pakistan pendant la campagne de 95, de leur arrêt brutal après la victoire de Jacques Chirac et de l'attentat qui a suivi 11 ouvriers français tués qui construisaient un sous-marin à Karachi. Leurs familles sont présentes au procès ainsi que certains des 12 blessés de l'attentat. Parmi eux, Frédéric Labatte qu'a rencontré Charlotte Piret.
Il n'aime pas trop en parler, prévient l'une de ses proches quand on sort le micro. Pudiquement, Frédéric Labatte explique tout de même avoir été blessé ce 8 mai 2002, avoir perdu des collègues, surtout des ouvriers comme lui qui chaque matin montaient dans ce bus pour rejoindre le chantier naval.
On y allait simplement travailler, aider les Pakistanais à faire leur bateau. Et voilà, pour nous ça s'arrêtait là. Enfin, on était à des lieux de pensée. Tout ce qui se faisait derrière.
Depuis, l'ouvrier de 50 ans a appris, découvert les méandres financiers de cette affaire, ce qui se jouait au niveau étatique derrière ces contrats qu'avec ses collègues, il mettait à exécution sur les chantiers de Karachi.
Tout un monde de chiffres, de sociétés offshore, de montages financiers, enfin des choses auxquelles on n'est pas habitué, quoi. Donc, il y a associé de l'argent, de ces sommes faramineuses, de commissions, de rétrocommissions. C'est pas facile à vivre, en fait.
Et puis derrière les chiffres persiste le traumatisme, même 17 ans après.
Voilà, avec le temps, ça s'estompe, mais voilà, des moments comme ça, tout revient. Et voilà, il faut vivre quand même.
Vivre et travailler toujours dans les chantiers navals, chef d'équipe à Cherbourg. Pour assister au procès, il a posé des jours de congé et attend désormais les premiers interrogatoires de prévenus prévus aujourd'hui.
Et dans cette affaire, Édouard Balladur et son ancien ministre de la Défense, François Léotard, ont été renvoyés devant la Cour de justice de la République. Et puisqu'on parle armement et gros contrats, c'est aujourd'hui que l'Inde prend livraison du premier des 36 Rafales commandés à la France. Une cérémonie aura lieu à Mérignac.
Il est 8h13 et on va remonter le temps maintenant, Florence, pour revenir au premier siècle de notre ère.
Direction Narbonne, première colonie de l'Empire romain hors d'Italie, où des archéologues ont découvert une nécropole majeure sur un chantier de construction d'immeubles, des centaines de tombes figées par le limon de l'Aude. Reportage signé Sophie Bécherel après 2 mois de fouilles.
À genoux, armés de truelles, d'aspirateurs et de balayettes, ils sont une trentaine, affairés autour de zones délimitées par des murets de pierre.
Le vase est intact, il manque le bord, le col, mais le reste a été conservé. Oui.
Depuis 2 mois, ces archéologues ont mis au jour 400 tombes. Au total, il pourrait y en avoir plus de 1000, aucune semblable à sa voisine. Petit à petit, les indices s'accumulent et on sait désormais qui est enterré là, explique la responsable du chantier, Valérie Bell, de l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive.
Ce sont des populations issues de la plèbe urbaine, c'est-à-dire des esclaves, des affranchis, mais qui avaient un bon niveau économique parce qu'on a des enclos, des petits monuments, des plaques funéraires en marbre aussi qui montrent qu'on a une population qui est essentiellement du statut inférieur, mais quand même qui avait une relative prospérité.
Dans cette nécropole du 1er et 2e siècle de notre ère, la plupart des morts étaient incinérés, leurs cendres déposées dans un vase. Ils restaient en contact avec les vivants par une sorte de tube en terre cuite qui servait aux offrandes. En fait, des cols d'amphores recyclés, explique l'anthropologue Jérôme Hernandez.
On va prendre le col, et le col d'amphore va être mis sur la tombe, voire dans la tombe, dépassé du sol, et c'est par ce col, ce tuyau, qui va devenir le conduit à libation, collection qu'on va partager avec le défunt, le vin, les restes de repas alimentaires, etc.
Par son ampleur, les rites qu'elle dévoile et parce qu'on est dans une cité stratégique de l'Antiquité romaine, cette fouille est exceptionnelle.
Sophie Bécherel, 4 mois et puis s'en va, s'en est fini de Silvinho, entraîneur de l'Olympique lyonnais, débarqué par Jean-Michel Aulas après 7 matchs sans victoire, la défaite face à Saint-Étienne avant-hier et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Silvinho qui pourra peut-être se consoler en jouant l'Euromillion aujourd'hui, qui sait, 190 millions d'euros à la clé ce soir, cagnotte record, 4 fois mise en jeu et toujours pas gagnée, ce soir c'est la 5e et dernière, et si personne ne trouve la combinaison intégrale, les gains seront partagés par les gagnants des rangs suivants, de quoi attirer les joueurs, ils sont déjà 2 fois plus nombreux avant le tirage de ce soir, on se bouscule chez le buraliste Rémi Brancato.
Elisabeth est une habituée de ce bureau de tabac d'ici les Moulineaux.
Depuis 20 ans, je fais les mêmes numéros, toutes les semaines. 2, 7, 9, 11, 14, c'était le numéro de maman.
C'est le numéro que votre mère jouait.
Voilà, au tiercé à l'époque, elle, maman. Allez, c'est parti, mon kiki. Moi, j'ai gagné combien aujourd'hui? 8,70 sur 26,60. C'est déjà pas mal. Si je touche le gros lot, ben j'achète déjà une maison. On ne demande pas tant. Un petit million, ça suffit. Hein.
Le jackpot est beaucoup plus alléchant. C'est le plafond, 190 millions depuis 4 tirages.
On est les premiers à faire une grille hein, entre collègues.
Même Shérif Mohad, le patron, se prend à rêver.
On vend le tabac, c'est sûr. On change de vie sur plusieurs générations. Là, avec 190 millions, des clients qui viennent juste pour prendre un paquet de cigarettes, dès qu'ils voient 190 millions, ils tentent leur chance. Hein.
Ce jackpot record a déjà été mis en jeu 4 fois. Résultat, 2 fois plus de joueurs, mais toujours aucun gagnant. Alors si personne ne trouve tous les numéros ce soir, les 190 millions seront répartis pour les gagnants du rang 2. Ils étaient 8 vendredi et ce serait une première. Les chances augmenteraient, précise Cécile Lager de la Française des Jeux.
Si on était dans cette situation, chacun gagnerait plus de 20 millions d'euros chacun. La probabilité de gagner au rang 2 est d'une chance sur 6 millions quand elle est d'une chance sur 139 millions au rang 1.
Et en 15 ans, les 190 millions ont été remportés 3 fois, mais jamais par un Français.
Alors tout le monde se demande autour de la table ce qu'il ferait avec 190 millions. Pas ouais. Nous, parce qu'on est très heureux en amour, Nicolas, ouais, moi, par exemple.
Formidablement, ouais. Moi, je vais jouer le 8, le 17 et le 10, soit finalement l'heure de votre retard, ma chère Florence Paracuelos.